Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la merde qui s'est fait nommer en Bretagne, il était un instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.
Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Laurent Gounel, qui est venu nous présenter, parler autour de son dernier roman qui s'appelle Le Réveil et qui est édité chez Calman Levy. Bonjour Laurent Gounel.
Bonjour Nathalie.
Alors, ce livre, donc, depuis votre premier livre, je dirais, L'homme qui voulait être heureux, j'ai l'impression qu'il y a une évolution dans tous les thèmes que vous avez abordés. Comme si vous alliez de plus en plus loin dans l'analyse du fonctionnement du monde, en partant de l'homme qui voulait être heureux à la base.
Oui, sans doute. Donc, je suis en effet partie de l'homme qui voulait être heureux, donc avec un personnage qui se pose des questions sur lui, en se disant finalement pourquoi est-ce que je suis pas heureux alors que j'ai à peu près tout pour être heureux. Je suis en bonne santé, j'ai un job, enfin voilà. Donc, c'était un questionnement psychologique, je dirais. Voilà, vraiment au niveau de la psyché, qu'est-ce qui peut se passer en nous au niveau de notre personnalité, de nos croyances, etc., qui nous empêche ou qui au contraire peut favoriser notre épanouissement, donc vraiment à un niveau psychologique. Donc ça, c'est vrai pour mes deux premiers livres. Alors le premier, c'est plus L'homme qui voulait être heureux, un échange avec un personnage qui a une figure de sage. Et dans le deuxième, c'est plus quelque part, c'est toute une histoire, c'est assez romanesque, du voyage toujours incognito, mais c'est plus une mise en application, on va dire, dans la vraie vie, puisqu'on a un personnage qui va essayer de se libérer de ses peurs, en l'occurrence, pour avoir une vie meilleure, quoi.
En fait, il y a l'homme qui voulait être heureux. Mmh. Après, on sent dans le livre qui suit les parcours initiatiques.
Oui.
C'est une mise à l'épreuve aussi. Mmh. Et puis, au fil du temps, on va trouver le trésor qui est en nous. Mmh. Et puis, après, je dirais jusqu'à ce livre, Le Réveil. Après toute cette recherche de liberté individuelle, personnelle, là, est-ce que avec ce livre, Le Réveil, vous avez eu l'impression que cette liberté, elle était très chère et qu'il fallait être vigilant ?
Oui, parce que la liberté, en fait, pour moi, est quasiment touche à notre essence, en fait, à l'essence de notre humanité. C'est-à-dire, bon, tout le monde peut prendre ça à la légère, en disant, bah oui, moi c'est important pour moi d'être libre. Et en même temps, accepter de renoncer à une part de sa liberté sans réaliser à quel point c'est essentiel, en fait, la liberté. Et ça, on ne le réalise pas tant qu'on l'a perdu, tant qu'on ne l'a pas perdu, sans doute. On peut le réaliser, certains le réalisent lorsque, en fait, ils ne sont pas libres intérieurement, dans leur tête, on dirait familièrement, et pensent que ce manque de liberté vient des autres, en fait. Ça, c'est assez fréquent, vous voyez. Donc, les gens qui se sentent pas libres à cause de leur conjoint, à cause de leur patron. Bon, c'est parfois réellement le cas, vous me direz.
Mais, de leur travail.
Leur travail, voilà. Et sans réaliser parfois que, en fait, c'est eux qui s'autorisent pas à être libres. Et du coup, ils vont, entre guillemets, se soumettre, pas forcément volontairement, parce que c'est inconscient, mais ils vont se soumettre parfois aux diktats des autres ou aux règles des autres, alors qu'on ne leur a pas vraiment demandé ou qu'il y aurait moyen de ne pas s'y soumettre. Et ça, ils ne le réalisent pas forcément. Donc souvent, il faut perdre la liberté pour réaliser sa valeur.
D'où il faut se réveiller, quoi. Attention. C'est un livre que vous diriez... À la lecture de ce livre, c'est étonnant. Enfin, Laurent Gounel est sorti un peu du rail par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de lire de vous. Est-ce que c'est un livre, je dirais, coup de gueule, entre guillemets, ou un livre...
Alors oui, en effet,
courageux.
Un coup de gueule en tout cas, oui, ça c'est sûr, parce que c'est un livre qui est inspiré par la lente évolution de notre société, même si le phénomène s'est accentué depuis 2 ans, une évolution qui va dans le sens précisément d'une diminution de nos libertés, en fait. Ou à un moment donné, parce que il y a en nous un certain nombre de peurs, mais qui sont beaucoup induites par l'extérieur, et notamment par la plupart des médias, et surtout les médias télévisuels, je dirais, on pourrait revenir dessus plus tard. Donc en fait, on a conscience d'un certain nombre de dangers, et la prise de conscience de ces dangers nous conduit quasi volontairement à accepter de renier nos libertés, en fait. et de renoncer à une part de liberté, parce que dans la hiérarchie de nos critères, on va dire, dans la hiérarchie de nos valeurs, bah, on va passer à un moment donné la sécurité au-dessus de la liberté, ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Il y avait un philosophe qui s'appelle Abraham Maslow qui avait hiérarchisé les besoins humains et qui disait, ben voilà, tout en bas, il positionnait ça sur une pyramide. Alors il disait, ben en bas de la pyramide, il y en a les besoins physiologiques. On a tous besoin de boire, manger, dormir. Et c'est quand ces besoins sont satisfaits qu'apparaissent d'autres besoins. Donc là, c'était la phase au-dessus, la marche au-dessus dans la pyramide, c'était les besoins de sécurité, là, en l'occurrence. Et c'est seulement quand les besoins de sécurité sont assouvis qu'apparaissent les besoins, alors je crois qu'il y avait les besoins d'appartenance, appartenance à un groupe humain, se sentir appartenir à une famille, un groupe d'amis, ça peut être une association, un syndicat, une entreprise, que vous voulez. Quoi. Et puis après, au-delà des besoins d'appartenance, quand ils sont assouvis, apparaissent des besoins de reconnaissance. D'accord, besoin d'être reconnu pour qui on est. Donc là, voilà, on s'éloigne un petit peu du groupe, on veut être reconnu pour soi-même. Et puis au-delà des besoins de reconnaissance, après, il y a les besoins de réalisation de soi, besoin d'être heureux, on pourrait dire basiquement, quoi. D'être heureux, d'être épanoui, épanouissement de soi, réalisation de soi. Donc c'est une pyramide, d'accord. Et tout là-haut, il y a la réalisation de soi. Et Maslow nous prévient, il nous dit, ben voilà, ces besoins, ils apparaissent au fur et à mesure de l'évolution d'une personne, et on le voit bien chez les enfants, hein. mais aussi de la civilisation dans son ensemble. Et sauf que même si on est arrivé tout là-haut de la pyramide et que nos besoins se situent essentiellement au niveau de la réalisation de soi, si à un moment donné dans notre vie, les besoins à un niveau inférieur sont attaqués, ne sont plus assouvis, à ce moment-là, on dégringole complètement la pyramide et on retourne scotché à ce niveau-là. Alors, et c'est ce qui se passe avec les besoins de sécurité. Vous voyez ?
À ces instincts de survie, en fait.
Oui, à ces instincts de survie. Alors, ça peut arriver parfois par les accidents de la vie. Moi, il y a 30 ans, j'ai perdu mon emploi, je me suis retrouvé au chômage. Bon, là, je n'étais plus tellement dans la recherche de réalisation de soi, ni même de reconnaissance. Quoi. Il me fallait un job, parce que je commençais à avoir peur de ne plus pouvoir payer mon loyer avec mes indemnités chômage. Quoi. Vous voyez, j'ai vécu ça, donc moi, j'étais retourné aux besoins de sécurité. Alors, en principe, ce genre d'accident de la vie est temporaire. Puis en effet, bah, au bout d'un certain temps, j'ai retrouvé non pas d'emploi salarié, parce que je me suis fait mon emploi. Quoi. Après, je suis devenu indépendant, mais en tout cas, j'ai retrouvé un équilibre qui me permettait d'assouvir mes besoins de sécurité. Et à nouveau, j'ai éprouvé le besoin d'appartenir, d'être reconnu,
remonter au sommet de la pyramide.
Exactement. Mais là, ce qui se passe, c'est à un niveau sociétal, c'est pas un niveau individuel, à un niveau sociétal. En fait, il y a des peurs qui émergent. Et sur lesquels on joue, en tout cas les pouvoirs publics jouent, ce qui fait qu'on se sent tous menacés dans notre sécurité, ce qui fait qu'on redégringole la pyramide malgré nous, je dirais. Et ça, c'est dommage parce que la plupart de ces peurs sont juste tout à fait injustifiées.
Et parfois complètement irrationnelles, quoi.
Oui, ça ne correspond pas à des dangers réels.
Alors, quand vous parliez de prise de conscience d'un danger, ce qui est très surprenant, c'est que cette prise de conscience du danger n'est pas la même pour tout le monde. Mmh. Donc, on n'est pas tous égaux face à cette prise de conscience, quoi. Mmh. Et là, alors, dans votre livre, c'est vrai que bon, il y a les médias, ce quatrième pouvoir que sont les médias. Mmh. Et si, pour les personnes qui ne prennent pas conscience du danger, parce qu'elles ne se sentent pas en danger, il va y avoir les médias qui vont les y aider aussi.
Mais complètement. Alors surtout, je dirais, les médias télévisuels, c'est ceux qui, selon moi, posent le plus problème. Pourquoi ? Parce qu'on vous fournit des images. Et on sait, il y a des études qui le montrent, que les images sont beaucoup plus impactantes que les mots. Donc c'est une chose, vous voyez, de lire des mauvaises nouvelles, par exemple, dans la presse, ou même de les entendre à la radio. C'est tout autre chose de voir les images associées. Vous voyez, et donc ça ne va pas du tout induire les mêmes peurs chez vous. Et dans un cas, vous pouvez garder votre raison, analyser le danger, parce que je ne suis pas en train de dire que tout va bien. Hein. Il existe des dangers dans ce monde, malheureusement. Mais dans un cas, en fait, vous gardez votre libre arbitre, vous analysez le danger, vous prenez vos décisions pour vous protéger. C'est normal, c'est humain. Mais si vous êtes fortement impacté émotionnellement par des images traumatisantes, à ce moment-là, vous perdez complètement votre libre arbitre et votre raison. Ça devient urgent, ça va activer sans doute la zone reptilienne du cerveau, vous voyez, qui est le siège de l'instinct de survie. Et là, ça devient urgent de vous protéger. Et là, vous êtes prêt à tout. Vous dégringolez complètement la pyramide de Maslow que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, voilà, il faut assurer votre survie et vous êtes prêt à renoncer à beaucoup de choses, et notamment votre liberté.
Alors, dans votre livre, il y a deux personnages qui communiquent, enfin qui échangent, de personnages aux états d'esprit, aux profils psychologiques complètement différents. Mmh. Il y a Tom, qui lui en France et qui vit une situation de danger, où on lui fait vivre une situation de danger. Et puis il échange avec un correspondant qui s'appelle Christos, un grec.
Un grec.
Quel hasard. Pourquoi avoir choisi un grec?
Eh bien, pour une double raison, je dirais. Est-ce que c'est en Grèce que se trouve le berceau de la philosophie? Même si on ne peut pas affirmer que la philosophie soit née là-bas, parce qu'en Chine, il y avait quand même des penseurs qui aussi amenaient les gens à réfléchir sur eux-mêmes, sur le sens de la vie et du monde. Mais bon, en tout cas, pour nous, occidentaux, c'est vraiment en Grèce que ça se passe, d'accord? Mais au-delà de ça, les Grecs ont inventé la démocratie. La démocratie est née là-bas, et donc c'est pas anodin. Quoi. Donc c'était tout un symbole, et voilà, il fallait que ce personnage soit grec absolument.
Et du coup, la sagesse était de son côté.
En l'occurrence, oui.
Bon, il essaie tout au long du livre de raisonner son ami, mais il est bien triste de le voir dans cet état de dépérissement, parce qu'on voit bien au fil des pages quand même cet homme, il est quand même. Il est très impacté par la situation qu'il vit. Mmh. Et ce Christos le voit dépérir et ne peut rien faire. Mmh. Parce que Tom n'est pas prêt à entendre ce qu'il a à dire.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire,
Tom, on peut raconter un peu le début de l'histoire. Quoi. Donc, Tom vit dans un pays. Alors, on ne précise pas d'ailleurs que c'est la France, hein, mais ça peut être la France. Il vit dans un pays où, subitement, le gouvernement a décidé de s'attaquer aux morts sur les routes. Ce qui, entre parenthèses, est un vrai problème. On sait qu'il y a des milliers de gens. Enfin, le nombre de morts est variable d'une année sur l'autre, mais ça varie entre 3 et 8 000. C'est juste énorme, d'accord ? Et donc, le gouvernement décide de s'attaquer à ça en prenant des mesures. Et, sauf que les médias relayent l'information. Et les médias, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils vont montrer, évidemment, des images de morts sur les routes, d'accidentés, de tôles de voitures découpées par les pompiers pour en extraire des blessés. Enfin, donc, on voit des images de gens mourant dans les services réanimation. Et donc, c'est évidemment très traumatisant. Et ça a un impact fort sur le personnage de Tom, qui se met à avoir peur, à ce moment-là, des voitures, et à commencer par la sienne. Quoi. Donc, il n'ose plus prendre sa voiture pour aller travailler. Il est un peu traumatisé par ce qui se passe, quoi.
Et donc, des fois, il faut être obligé de laisser sa voiture au garage. On n'a plus le droit de s'en servir. Ou quand on la prend, il faut mettre une minerve parce que effectivement, c'est le coup du lapin en général qui est le plus grave. Enfin, dans les blessures.
Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises par le gouvernement. D'abord assez anodines, et puis de plus en plus liberticides, mais qui vont être acceptées par Tom parce qu'il a franchement peur.
Il a peur
vu,
et...
Il voit encore toutes ces images, le bilan du nombre de morts quotidien sur les routes, parce que tous les jours, et c'est vrai d'ailleurs, il y a des gens qui meurent sur la route. Quoi. Simplement, le fait de porter cette connaissance à son esprit, eh bien, l'effraie. Et donc, il accepte toutes les mesures qui sont prises et qui vont de plus en plus loin.
Et c'est vrai que plus la peur est amplifiée et plus on accepte les mesures les plus liberticides.
Ah, mais tout à fait.
C'est inversement proportionnel, finalement.
Tout à fait, tout à fait.
Et donc, voilà.
Je peux vous raconter un exemple qui illustre bien l'impact de la peur. Quoi. Si vous avez peur en avion, d'accord, vous avez peur de prendre l'avion. En fait, si vous vous renseignez sur le nombre de morts par an en avion, objectivement, vous collectez des faits, vous allez vous rendre compte que c'est le moyen de transport au monde le plus sûr au monde après l'ascenseur, je crois. D'accord, c'est-à-dire vous prenez le nombre de personnes qui voyagent en avion sur la planète, d'accord, chaque année, vous prenez le nombre de morts en avion, parce qu'il y a rarement, mais il y a malheureusement parfois quelques accidents d'avion, vous prenez le nombre de morts, vous le divisez par le nombre de personnes qui voyagent, vous aurez un ratio, et vous vous rendrez compte que c'est le moyen de transport le plus sûr au monde, si vous le comparez au nombre de morts sur les routes, au nombre de morts à bicyclette, au nombre de morts à moto, etc., etc., d'accord, ou à trottinette, comme c'est la mode maintenant. Donc, si vous voyez ça, vous dites, c'est bon, je peux prendre l'avion, il n'y a pas de danger, enfin, il y a un danger, parce qu'il y a toujours un danger, mais la vie est un risque, d'accord, à partir du moment où on met un doigt de pied en dehors de son lit le matin, on prend un risque, hein, on peut tomber dans les escaliers, on peut se tuer, mais en tout cas, voilà, raisonnablement, vous ne pouvez plus avoir peur dans l'avion, d'accord, sauf que si vous voyez des reportages sur les accidents d'avion où on vous montre l'horreur que peut représenter la carcasse d'un avion brisé en deux. Hein, c'est déjà arrivé dans le passé. On se souvient de, je crois que c'est le vol de, enfin, je sais plus lequel. Enfin, de la TWR il y a quelques années. Il s'était cassé en deux en plein vol. Enfin, une horreur. Donc, voyez, on peut vous montrer des images tout à fait abominables. Et si vous voyez ces images, ça va être super dur pour vous de remettre les pieds dans un avion, quoi.
Et de repenser au ratio si bas.
Mais oui, voilà, c'est là, vous oubliez complètement. C'est comme si on débranchait votre raison. Voilà, vous êtes en proie à vos émotions et à partir de là, vous prenez des décisions qui seront plus rationnelles. Parce qu'un voyage que vous auriez pu faire en avion, vous allez peut-être le faire, c'est un voyage d'une longue distance, le faire en voiture. Et là, en fait, vous avez beaucoup plus de chances de mourir ou d'être affreusement blessé à bord de votre voiture qu'à bord d'un avion.
Mais bon, comme vous dites, la vie est un risque, mais oui. C'est ce qui nous la rend précieuse aussi.
Mais oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que la vie n'aurait pas tout à fait la même saveur, même si on peut le croire, si on ne courait aucun danger, voire même si nous étions immortels d'ailleurs. Franchement, est-ce que vous imaginez une seconde avoir la certitude qu'il ne vous arrivera jamais rien et que vous vivrez pour l'éternité? Ben, je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'apprécier autant la vie.
Alors ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Donc, je rappelle le titre de votre livre, hein, Le Réveil. Donc, c'est édité chez Kalman Lévy, comme d'habitude, je dirais. Oui. Nous, on se retrouve demain, puisque nous avons encore la semaine à passer ensemble. À demain.
À demain, Nathalie.
Laurent Gounel, Le Réveil. Si les médias diffusaient en boucle des informations allant dans le même sens, induisant la même émotion, la même peur, ce n'était sans doute pas sans raison. Il y avait probablement quelque chose derrière cette info. Christos avait encore à l'esprit les conférences et les livres de Chomsky, ses analyses de la façon dont nos sociétés avaient insidieusement basculé dans la manipulation des masses. Tout avait commencé en 1917 aux États-Unis. La Première Guerre mondiale fait rage en Europe et le président Wilson veut que son pays entre en guerre. Mais il se heurte à un double problème. Le peuple américain y est farouchement opposé et lui-même s'est fait réélire l'année précédente grâce au slogan « He kept us out of war ». Il est coincé. Pour résoudre ce problème, Wilson décide alors de créer une commission baptisée « Committee on Public Information », souvent surnommée « Commission Creel » du nom du journaliste qui l'a dirigée. Le but ? Retourner l'opinion publique en lui insufflant l'envie de cette guerre. Ses membres, non pas des hauts fonctionnaires de l'État, mais des journalistes, des illustrateurs et des professionnels de l'influence. L'idée n'est pas de convaincre avec des arguments rationnels, mais d'induire des émotions chez les gens pour forger de toutes pièces l'opinion publique en la façonnant dans le sens voulu par le pouvoir. L'un de ses membres est un certain Édouard Bernays, neveu de Freud, qui a repris de son oncle l'idée que les gens se croient dotés d'un esprit rationnel, alors qu'en réalité, ils sont soumis sans le savoir à leur inconscient. Pour Bernays, il ne sert à rien d'essayer de convaincre les gens avec des arguments ciblant leur raison. Il faut faire appel à leur instinct et à leurs émotions. La commission est dotée de moyens considérables. La première idée consiste à utiliser la presse pour lui faire relayer de fausses informations porteuses d'émotions fortes afin d'induire un profond sentiment anti-allemand. La commission rédige un épais bulletin quotidien qui est envoyé chaque jour à tous les organes de presse aux quatre coins du pays. Elle diffuse à grande échelle des histoires inventées de toutes pièces, par exemple celle de bébés belges embrochés par les Allemands sur des baïonnettes. La commission produit des films, y compris des longs-métrages. Elle crée des affiches illustrées, comme celle montrant un soldat américain arrêtant un Allemand en train de terroriser une mère et son enfant. Une autre montre un affreux gorille coiffé d'un casque à pointe, portant la moustache blonde de l'empereur allemand et armé d'un gourdin, enlevant une femme à moitié dénudée. En arrière-plan, l'Europe dévastée et la cathédrale de Reims incendiée. En énorme, le slogan « Détruisez cette brute enragée ». Très vite, on voit naître dans la population des sentiments de colère, puis de haine des Allemands. Des orchestres se mettent à refuser de jouer de la musique de compositeurs allemands. Les artistes sont mis à contribution, invités partout dans le pays à prendre la parole pour exprimer la nécessité d'entrer en guerre. En un rien de temps, l'opinion publique est retournée et soutient à fond la guerre. Cette vaste opération est un énorme succès. La Commission maintient ses actions de manipulation du peuple américain jusqu'à la fin du conflit, continuant à faire relayer par la presse de fausses informations, comme celle de bateaux escortant la première division en Europe qui aurait coulé plusieurs sous-marins allemands, ou encore celle d'une pléiade d'avions de combat volant vers la France alors qu'il n'en existe qu'un seul exemplaire, encore en phase de test dans son atelier. Leurs photos diffusées dans la presse ont été truquées. La Commission élargit son objectif initial et cible aussi la presse étrangère pour influencer l'opinion publique internationale. Des journalistes étrangers se voient offrir de beaux voyages aux États-Unis, ce qui, comme par miracle, les motive à relayer l'information voulue.
Place à la lecture dans « Il était une fois un livre ».
Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était à la séduction de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.